Eh bien, bonjour à tous et toutes. Alors, je vois quelques visages familiers. Merci en tout cas de nous accueillir, ma famille et moi, dans votre beau temple. Alors, j'avoue que ce n'est pas un exercice pour lequel j'ai l'habitude de prêcher ailleurs que dans mon église, mais voilà, je le fais avec plaisir, avec joie. Et donc, ce matin, je voulais partager sur un passage dans Matthieu. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles, Matthieu 11, et on lira les versets 25 à 30. Donc Matthieu 11, 25 à 30. En ce temps-là, Jésus répondit et dit : Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Certes, Père, car ainsi il a semblé bon à ta vue. Toutes choses me sont délivrées de mon Père, et nul ne connaît le Fils que le Père, et nul ne connaît le Père, sauf le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Amen. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur notre Dieu, alors que nous ouvrons ta parole pour la méditer, nous implorons ton secours pour être à ton écoute, comprendre ce que tu veux nous dire, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre les oreilles de nos cœurs pour que nous puissions entendre ce que tu vas nous dire ce matin. Amen. Alors, le repos, c'est un thème qui est très présent et même central dans la Bible. Dès la Genèse, on lit que Dieu s'est reposé après avoir réalisé son œuvre de création. C'est dans Genèse 2, les versets 2 et 3, qu'on peut lire « Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite ». Quelqu'un a dit que les mots les plus importants jamais écrits depuis les apôtres étaient certainement ceux écrits au IVe siècle par saint Augustin dans son livre « Les Confessions » où il dit ceci « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Dans son livre, Augustin donne un témoignage de son cheminement difficile et de l'expérience bouleversante de sa conversion. Et il nous donne aussi un aperçu de la condition de l'homme qui est en recherche du repos de l'âme. Ses confessions, elles détaillent son cheminement tortueux à la recherche de la paix intérieure. Il a cherché la paix dans beaucoup d'expériences, dans les plaisirs de la vie, dans le travail, dans l'éducation, dans l'ambition. Mais tout au long de sa quête, son âme restait tourmentée. Et c'est alors qu'il est au plus mal qu'il va trouver le véritable repos pour son âme, alors qu'il lit dans sa Bible le verset dans Romains 13, 14, qui dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et pour lui, pour Augustin, à cet instant, c'est la fin de sa quête pour le repos de son âme, qui était tiraillée par la culpabilité de son péché. À ce moment-là, il va trouver la paix intérieure dans le pardon accordé par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, alors qu'on va se concentrer sur ces mots de Jésus, on peut se demander également, est-ce que c'est vrai pour moi ? Ce que Christ nous propose est-il réellement atteignable ? Peut-on vraiment trouver le repos ? Alors, il n'est certainement pas anodin que Jésus nous parle deux fois du repos en l'espace de deux versets. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Non seulement il nous invite au repos, mais il nous dit que c'est en lui que nous trouverons le véritable repos. Alors, c'est bien sûr pas la première fois que la Bible nous parle du repos. Je disais en introduction que Dieu a instauré le sabbat dès la création. Et tout au long de l'Ancien Testament, dans la vie du peuple de Dieu, le repos est un thème omniprésent. Quand Moïse reçoit la loi de Dieu, Dieu instaure de nombreux temps, des temps qui vont venir rythmer le calendrier juif. On a par exemple le sabbat du septième jour, qu'on connaît bien, et puis on a le 50e jour après ce sabbat, on a le premier jour du septième mois, le 10e jour du septième mois également, et chaque année, la fête des cabanes qui revient, et puis on a aussi l'année du repos pour la terre, tous les 7 ans, tous les 50 ans également, le jubilé, l'année du jubilé, etc., etc. Tous ces temps sont marqués par le repos et l'interdiction de travailler pour se consacrer à Dieu, pour aller vers lui et se reposer en lui. Mais Dieu avait promis un autre repos, et tout ça pointait vers quelque chose de bien plus grand. Tous ces événements symbolisaient la venue du Messie. L'humanité, depuis la chute, est sous la malédiction et le jugement de Dieu, et elle attend la réconciliation, le repos de sa culpabilité et de son labeur. Et d'une certaine manière, ce que Jésus dit dans ce passage, c'est qu'il est le repos de Dieu. Mais il ne fait pas que le dire. Parce que si on va quelques versets plus loin, au chapitre 12 et au verset 9, on assiste à la scène où Jésus va guérir un homme lépreux pendant le sabbat. Alors cet homme, ce lépreux, était certainement très fatigué par sa condition. Il faut savoir qu'être atteint de la lèpre, à cette époque, ça voulait dire être mis au banc de la société, être rejeté de tous, être coupé des siens, ne plus pouvoir travailler, être obligé de compter sur la charité des autres, sur leur gentillesse pour manger, pour vivre. Mais Jésus vient. Et alors que les pharisiens se questionnent sur la légitimité de guérir le jour du sabbat, eh bien Jésus va vers cet homme et le guérit. Il lui donne le repos le jour du sabbat. Et quelques versets encore plus loin, cette fois, on amène à Jésus un homme qui est habité par des esprits mauvais. Et là encore, Jésus va opérer une guérison. On est au chapitre 12, verset 22. On lui amène un démoniaque, un homme habité donc par des esprits. Et là encore, Jésus va le libérer le jour du repos. Jésus va lui accorder du repos pour son âme qui est tourmentée, tiraillée par les démons. Face aux pharisiens qui l'accusent, Jésus leur montre qu'il est lui-même celui vers qui chaque sabbat, semaine après semaine, pointe véritablement le repos de Dieu. Matthieu, dans son évangile, nous montre que Jésus ne fait pas que dire qu'il peut donner le repos, mais il le prouve par ses nombreux miracles. Il nous montre qu'il est capable de le faire par ses nombreuses guérisons. Et c'est dans ce contexte de guérison, face aux pharisiens qui sont dans leur hypocrisie, que Jésus nous appelle à porter son joug, son fardeau, qui est doux et léger, à l'inverse, du coup, de celui des pharisiens qui, eux, ont modifié la loi et ont compliqué les choses. Ils ont rendu la loi trop dure à respecter, impossible à respecter même s'ils sont totalement honnêtes. Jésus propose d'entrer dans son service, de nous détacher de notre fardeau pour porter le sien. Mais dans un monde qui est de plus en plus virtualisé, coupé de la réalité physique, mais aussi intoxiqué par la drogue et les médicaments, beaucoup ne se rendent pas compte de leurs besoins de repos. J'entendais encore, il y a quelques jours, à la radio, un addictologue qui exprimait sa grande inquiétude face à la démocratisation de drogues dures comme l'héroïne et la cocaïne qui, aujourd'hui, sont utilisées par monsieur, madame, tout le monde. En 2023, c'est 1,1 million de Français qui ont consommé ces drogues, juste ces drogues. Et pour certains, c'est simplement pour faire face à la difficulté du quotidien, à l'intensité du travail, simplement. Oui, la société nous propose tellement de substituts pour tenter de calmer notre âme, toujours plus de loisirs, un meilleur partenaire, des enfants plus obéissants, un meilleur travail, plus d'argent. Le monde qui nous entoure nous propose toutes sortes d'alternatives, tout en nous promettant une paix intérieure, une plénitude, un repos intérieur. Mais peu importe combien on cherche à satisfaire ce besoin, nous sommes toujours en reste. Et ce que Jésus nous propose, c'est une solution à cette quête, à la souffrance et aux angoisses auxquelles le monde ne peut pas répondre. En fait, ce monde nous propose une contrefaçon du repos, une illusion qui nous détourne du véritable repos. Car peu importe nos efforts, peu importe combien on peut avoir expérimenté, réalisé, amassé pendant notre vie, que reste-t-il à la fin ? Oui, le monde nourrit l'envie, il nourrit l'ambition, mais en parallèle, l'insatisfaction de l'âme. Et je ne suis pas en train de dire que toute forme de bien matériel ou toute forme d'activité sont fondamentalement mauvais et devraient être totalement rejetés, mais plutôt que le monde nous fait croire que ce matérialisme est une réponse, est une fin en soi, et qu'il nous permettra d'atteindre la plénitude, qu'il est la réponse à notre besoin le plus profond. Mais on lit dans Ecclésiaste 3, verset 11, que Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Il a même mis dans leur cœur, il est question du cœur des hommes, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Oui, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Et c'est pour cela que des choses temporelles, éphémères, ne peuvent pas satisfaire pleinement l'homme. Car nous avons besoin d'une perspective éternelle. Alors certains vont dire, mais moi je me comporte bien, je suis né dans la foi, j'ai grandi en connaissant Dieu, je vais à l'église, je donne de l'argent à ceux qui ont besoin, je fais en sorte de toujours faire les bons choix, les meilleurs choix possibles. Sûrement, je peux être dans le repos. Pourtant, dans un autre passage, dans Matthieu 19, les versets 16 à 23, il y a l'épisode où Jésus rencontre le jeune homme riche qui vient le consulter pour savoir comment avoir la vie éternelle. Alors Jésus lui répond, « Suis les 10 commandements. » Le jeune homme lui répond, « Mais je les suis déjà depuis toujours, je les respecte. » Alors Jésus lui dit, « Dans ce cas, va, vends tout ce que tu as, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Et la suite nous dit que le jeune homme, riche, après avoir entendu ces paroles, s'en alla triste parce qu'il avait de grands biens. Celui-ci pensait qu'avoir suivi les 10 commandements suffisait à plaire à Dieu. Mais quand Jésus lui demande de se débarrasser de ses biens, il met le doigt sur le problème. Le jeune homme se rend compte qu'en fait, il ne les a jamais respectés. En effet, comment pouvait-il aimer Dieu de tout son cœur si ses biens, ses grands biens, prenaient toute la place dans sa vie ? En fait, il était aveuglé par sa prétention morale. Il pensait avoir obéi au commandement toute sa vie. En fait, il avait porté un fardeau bien trop lourd. Et Jésus veut montrer que suivre les règles, faire des bonnes œuvres, obéir à la loi, n'a jamais été source de salut. La loi n'existe que pour mettre en évidence notre péché et notre besoin de Christ. Donc que ce soit le monde et les substituts qu'il propose, ou la poursuite d'une obéissance parfaite à la loi, la religion, toutes ces choses ne peuvent pas apporter de réponse à une âme en quête de repos, mais seulement masquer le besoin réel de notre âme. Et si Jésus nous dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos pour vos âmes », c'est parce qu'il est le seul à pouvoir nous donner ce repos. Et peut-être que l'un des endroits dans la parole, dans la Bible, où l'on peut particulièrement ressentir comment Christ peut nous donner le repos, c'est quand il se trouve à Gethsémané dans le jardin, peu avant son exécution. On va lire dans Matthieu 26, ce court passage, les versets 36 à 44. Matthieu 26, les versets 36 à 44. « Alors Jésus s'en alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'en irai pour prier. » Et ayant pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être triste et fort angoissé. Et il leur dit, « Mon âme est excessivement triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Et il alla un peu plus loin et se jeta le visage contre terre et pria en disant, « Ô mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Puis il vint vers ses disciples et les trouva endormis, et il dit à Pierre, « Quoi ? Ne pouviez-vous pas veiller une heure avec moi ? Veillez et priez, de peur que vous n'entriez dans la tentation. L'esprit vraiment est volontaire, mais la chair est faible. » Il s'en alla encore pour la seconde fois, et il pria, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et en revenant à eux, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et les ayant laissés, il s'en alla encore et pria pour la troisième fois en disant les mêmes paroles. À cet instant, Christ commence à ressentir une profonde tristesse, de la frayeur, des angoisses. C'est le moment où il va commencer à ressentir et à vivre le poids de notre péché, de notre culpabilité. Et face à l'intensité de ce qu'il est en train de vivre, il s'adresse à Dieu et lui demande d'éloigner, si c'est possible, cette coupe de lui, cet instant. Lui qui a vécu une vie parfaite, sans péché, il commence à ressentir notre culpabilité, nos angoisses. Et dans l'évangile de Luc, Luc nous dit qu'il va aller jusqu'à l'agonie. C'est-à-dire que Christ va physiquement vivre les symptômes d'une âme torturée, pétrifiée, prostrée et profondément troublée, jusqu'à ce que sa sueur se transforme en grumeaux de sang. Et il va ressentir l'intensité de notre péché, de notre culpabilité tout au long de son chemin, jusqu'à la croix. Il va vivre le rejet des hommes, le reniement de ses disciples, et ça va aller jusqu'à à ce qu'il soit coupé de sa relation avec Dieu. Sur la croix, il va être dans l'obscurité la plus noire, la solitude la plus intense que nous ne vivrons jamais, ne connaîtrons jamais. Il va vivre l'agonie, et l'agonie va le mener à la mort. Et alors qu'après de longues heures, il expire à la croix, Jésus va finir par dire « Tout est accompli » dans Jean 19, 30. Tout cela, il l'a vécu à notre place. Il a offert sa vie en sacrifice, un sacrifice ultime, réalisé une fois pour toutes, de sorte que plus aucun sacrifice, plus aucune œuvre ne soit nécessaire pour l'expiation de nos péchés. L'humanité était condamnée à mourir et être éternellement coupée de Dieu. Et depuis la chute, nous sommes tous condamnés. Notre cœur est brisé et ne fonctionne pas comme il devrait à cause du péché. Et ce sacrifice, c'était le seul moyen possible pour Dieu pour qu'il rétablisse une relation avec sa création, une relation de paix avec les hommes. Il n'y a que le sacrifice de Christ qui peut changer nos cœurs et le faire fonctionner à nouveau correctement. Car à la croix, il efface totalement notre péché. Il a pris notre fardeau, le poids de nos consciences opposées à Dieu, le poids de nos erreurs, de nos mensonges, de notre désobéissance. C'est donc pour ça qu'il peut dire « Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et qu'il peut nous donner le repos. » Parce qu'il l'a acquis par son sang. Et nous avons maintenant un accès à un repos spirituel, non pas une fois par semaine, mais pour l'éternité, pour toujours. Donc Jésus lance cet appel. Il nous dit en quelque sorte que nous devons choisir quel fardeau, quel joug nous voulons porter. Voulons-nous porter le poids d'une vie attachée à ce monde ? C'est un joug décevant qui nous laisse toujours en reste, parce qu'il est centré sur des choses éphémères, présentes, et il essaie d'étouffer notre péché et notre besoin de pardon face au jugement de Dieu. On le porte, mais il ne peut pas réellement calmer nos anxiétés et nos craintes, seulement les dissimuler, les ignorer. Il n'enlève pas notre culpabilité ni notre condamnation. Ou bien voulons-nous porter le fardeau proposé par Jésus, qui est doux et léger. Jésus qui, à la croix, a porté nos angoisses, notre péché, il a vécu notre condamnation. Et il nous propose en échange la liberté, la légèreté de sa grâce, la légèreté d'un cœur pardonné. Nous pouvons vivre libres de toute culpabilité, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui choisissent de le suivre. Leur péché n'est plus. Christ, c'est notre sabbat, c'est le repos promis par Dieu, et en lui, nous pouvons définitivement trouver le repos pour nos âmes. Amen. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous montres combien tu es le repos, le vrai repos pour nos âmes. Seigneur, je te prie de nous aider chacun à trouver le chemin jusqu'à ce repos éternel, ce repos pour nos âmes qui peuvent être tourmentées par bien des choses, par bien des angoisses, bien des craintes, dans un monde toujours plus assombri. Seigneur, tu es notre rocher, tu es notre sabbat. Merci. Au nom de Jésus. Amen.